Bonjour, je suis Sarah Pieuvesan, journaliste à l'agence de presse AEF Info, et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce 30e, et oui, déjà 30e épisode du grand oral AEF Info FNEJ. Ce podcast a été lancé à l'été 2023, en partenariat avec la FNEJ, et depuis, 30 invités se sont donc succédés à ce micro, tous dirigeants dans le monde de l'enseignement supérieur de gestion, pour nous parler de leur école, de leur IAE, de leur université, tous confrontés aux mêmes défis démographiques, sociaux, environnementaux ou technologiques. Voilà une belle collection d'entretiens, exclusivement centrée sur le SUP et la recherche, qui reste disponible en accès libre sur toutes les plateformes de podcast et sur les sites d'AEF Info et de la FNEJ. J'ai aussi le plaisir de les avoir menés avec vous, Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ, bonjour.
Bonjour.
Et en alternance avec Bernard Ramanantsou, directeur honoraire d'HEC Paris. Alors pour célébrer ce 30e numéro, j'ai proposé une carte blanche à l'une de mes collègues d'AEF Info, qui s'est aussi essayée à la pratique du podcast l'année dernière avec sa série sur les laboratoires de la transition. Cette collègue, c'est Anne Roy, journaliste pour notre rubrique Recherche et Innovation, qui est aussi une spécialiste de la transition environnementale dans l'enseignement supérieur et la recherche. Bonjour Anne.
Bonjour.
Et notre candidat au grand oral, Anne, aujourd'hui, c'est Christophe Torcet, qui dirige l'IAE de Paris-Est depuis juin 2023, un IAE rattaché à l'université de Paris-Est Créteil. Bonjour Christophe et bonjour à tous.
Bonjour.
Alors Christophe, avant de vous laisser entre les mains expertes d'Anne et de Jérôme, un petit focus s'impose sur l'IAE que vous dirigez parce qu'il n'est pas forcément facile de comprendre d'où il vient ni qui il est. Alors l'IAE de Paris-Est, c'est d'abord l'un des trois IAE de la région Paris-Île-de-France, aux côtés de son grand frère, entre guillemets, le fameux IAE de Paris, et de l'IAE de Versailles-Saint-Quentin. Il a été créé en 1994, mais il n'a pris le nom d'IAE qu'en 2007, et il est alors baptisé IAE Gustave Eiffel. Dernier point important, il dépend de l'UPEC, Université Paris-Est Créteil, ex-Paris 12 pour les plus anciens d'entre nous. Si je fais des erreurs, vous me coupez. Mais depuis 2012, il labellise aussi les formations en management de l'université voisine, celle de Paris-Est Marne-la-Vallée, qui, depuis 5 ans, s'appelle Université Gustave Eiffel. Alors ça se corse un peu, puisque nous nous retrouvons donc, si je résume, avec un IAE Gustave Eiffel, qui dépend de l'UPEC, et non pas de l'université Gustave Eiffel, dont il labellise tout de même des formations. Cette situation légèrement embrouillée, qui ne doit pas faciliter la tâche de nos amis du classement de Shanghai, a pris fin en 2022, année où vous décidez de changer de nom et de vous baptiser d'un beaucoup plus clair IAE Paris-Est. C'est bien ça ?
C'est bien ça, merci pour cette synthèse.
Et donc, vous délivrez vos formations sur trois sites, Créteil, Marne-la-Vallée et Sénart, et vous comptez à peu près 1800 étudiants au total. Alors, question évidente après avoir démêlé cet écheveau, n'y a-t-il pas un petit problème de lisibilité et de visibilité dans ce paysage universitaire de l'Est parisien qui peut-être traduirait un problème d'identité ?
Alors, je ne crois pas qu'il y ait de problème d'identité, j'en suis même convaincu. Je crois que nous travaillons beaucoup sur la visibilité et le fait de développer ce nom et qui, nous l'espérons, va devenir une marque IAE Paris-Est, est un des éléments importants pour nous pour renforcer la visibilité de nos formations. Mais nous avons un seul site internet, une seule plaquette de présentation de nos formations. Et je dirais que le reste, c'est-à-dire le rattachement de certaines des formations à l'université Gustave Eiffel ou pour la majorité d'entre elles à l'université Paris-Est Créteil, c'est notre cuisine interne.
Et vos étudiants, les familles, ne se sont jamais interrogés sur ce nom qui, à un moment donné, était certainement rentré dans les têtes ?
Pas véritablement, je crois que ça a au contraire contribué à clarifier la situation, le fait de devenir l'IAE Paris-Est. Et donc je ne crois pas que ce soit un problème, même si évidemment lors des journées portes ouvertes, on peut avoir des questions sur ce thème.
Alors maintenant que les choses sont claires, parlons un peu de stratégie. Quels sont pour vous les enjeux importants, majeurs pour votre IAE à l'horizon de 5 ans ?
Alors, il y a plusieurs enjeux importants. On a un enjeu en termes de croissance, et de croissance notamment raisonnée. Aujourd'hui, nous sommes un IAE dont on peut considérer qu'il atteint une sorte de taille critique. Nous sommes dans le premier tiers en termes de taille et d'effectifs étudiants au sein du réseau IAE France. Et nous avons vocation à accompagner une demande sociétale croissante dans le domaine des formations management. En revanche, nous devons le faire de manière raisonnée, c'est-à-dire compte tenu des ressources dont nous disposons, qu'elles soient à la fois pédagogiques, mais même parfois logistiques ou bâtimentaires, qui sont également des questions importantes dans les universités. Donc cette question de la croissance est une question qui est importante. Elle doit se conduire en tenant compte de la soutenabilité de l'offre et évidemment en concertation avec nos établissements de tutelle. Le deuxième point qu'on peut certainement identifier comme un enjeu important, c'est la question de l'attractivité des formations en management. Mais je dirais que ça dépasse presque l'IE Paris-Est. C'est une question qui, à mon avis, peut même s'adresser à l'ensemble des établissements de formation et de recherche dans le domaine du management. J'ai parfois, moi, à titre personnel, le sentiment qu'on est un peu en haut de la crête et que, potentiellement, la demande sociétale pour les formations en management telles qu'elles existent actuellement va probablement se tasser. Donc, il est important de renforcer notre attractivité de ce point de vue-là. Ça signifie profiter notamment de l'interdisciplinarité que nous offre notre statut d'université, enfin de composante universitaire, donc avec la possibilité de travailler avec d'autres composantes.
Vous avez des exemples d'interdisciplinarité?
Alors l'interdisciplinarité au sens où nous allons pouvoir faire intervenir par exemple des professeurs de médecine dans nos formations dans le management des établissements de santé ou évidemment des professeurs de droit pour les formations plus classiques de management. On a commencé à développer assez timidement pour l'instant des formations sous forme de graduate programme en lien avec des activités plutôt industrielles et scientifiques, par exemple dans la maîtrise des risques et la construction de matériaux innovants, etc. Donc ça, ce sont des questions qui sont importantes et qui vont nous permettre justement de construire une offre qui dépasse un peu les frontières traditionnelles du management pour en renforcer la transversalité. Donc cette question d'attractivité est très importante et elle est évidemment associée au développement du nouveau nom IE Paris-Est. C'est un point particulièrement important. Et puis enfin, le dernier point, mais je crois qu'il est commun à l'ensemble des écoles, c'est la consolidation, le renforcement un peu de notre espace stratégique. Ça signifie que nous avons besoin de mieux différencier, mieux faire connaître nos formations. Donc, par le biais, bien sûr, d'actions de communication assez classiques, participation à des salons, communication institutionnelle, etc. Mais aussi en développant une offre qui parle aux étudiants d'aujourd'hui, aux candidats, et qui corresponde à leurs attentes, tout en respectant, bien sûr, les attentes des entreprises également.
Alors, qui dit attractivité, qui dit offre, dit aussi concurrence. Et on a aujourd'hui beaucoup d'écoles plutôt relevant du secteur privé non lucratif, qui s'est installée à Paris, des écoles de province. Alors, est-ce que ça a un peu changé votre paysage concurrentiel de voir arriver tous ces nouveaux établissements qui, d'une certaine façon, chassent les mêmes individus que vous et, en termes de taille, qui sont souvent beaucoup plus, parce que vous parliez dans le premier tiers des IAE, 1800, mais si on fait des comparaisons avec des écoles plutôt privées qui sont à 5 000, 10 000 étudiants, là du coup, vous êtes plutôt un petit établissement. Quel impact vous mesurez sur vous et sur la demande des étudiants de l'arrivée de tous ces challengers ?
L'impact est très fort. Depuis une dizaine d'années, effectivement, en Ile-de-France et à Paris, l'offre s'est beaucoup développée dans le domaine des formations au management. Aujourd'hui, l'interrogation que nous avons sur notre niveau d'attractivité nous amène plutôt à ne pas être... à ne pas construire notre offre uniquement sur cette question de la concurrence, à penser qu'il y a des espaces pour tous. Mais c'est vrai que lors d'événements comme les journées portes ouvertes ou lors de nos actions de communication, nous insistons bien sur certains éléments saillants de l'offre des IAE de manière plus générale, c'est-à-dire des diplômes nationaux qui sont donc reconnus par l'État, et puis un certain nombre de démarches qualité qui sont associées à la participation au réseau qui sont extrêmement importantes. Mais il est évident qu'on est aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler un océan rouge dans le domaine de la formation management en Ile-de-France.
Peut-être dire ce qu'est un océan rouge pour nos auditeurs.
Alors, un océan rouge, c'est un terme qui vient d'un ouvrage de stratégie de Kim Emoborn qui s'appelle l'océan bleu et qui caractérise un environnement concurrentiel où on a un nombre extrêmement important d'offreurs et pour une demande relativement limitée. Et on contribue de plus en plus, on est de plus en plus dans ce type de situation dans le domaine du management.
Alors, vos étudiants, concrètement, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Est-ce qu'ils sont liés à votre proximité en banlieue parisienne ou est-ce que ça vous donne une ouverture sociale plus élevée que d'autres établissements par rapport à un IAE de centre-ville, par exemple? Essayez de nous décrire un peu votre population étudiante et qui vous attirait.
Alors, on a une population étudiante donc d'à peu près 1800-1900 même étudiants aujourd'hui, à peu près 500 étudiants en licence, 1300 en master et puis une centaine entre une trentaine de doctorants et à peu près 70 étudiants en formation de type diplôme d'université. Quand on regarde l'origine de nos étudiants, l'origine géographique de nos étudiants, on se rend compte que 75% viennent d'Île-de-France. Alors, cette origine géographique, on la mesure en regardant le département dans lequel ces étudiants ont passé le baccalauréat. Et sur ces 75%, 25% viennent du Val-de-Marne, 20% de Paris et 30% d'autres départements de l'Île-de-France, et 25% qui viennent hors Île-de-France ou de l'étranger. On accueille, et je pense que c'est assez classique dans les IAE, 55% de jeunes femmes et 45% de jeunes hommes. Alors je dis jeunes parce que notre pyramide des âges est extrêmement réduite. Et nous avons, pour répondre à votre question sur l'accession sociale, nous avons un taux de 26% d'étudiants boursiers aujourd'hui à l'IAE Paris-Est. Et en termes de nationalité, puisque c'est aussi un élément qu'on a regardé récemment, on a à peu près 75% d'étudiants qui sont de nationalité française et 25% d'autres nationalités. Et avec là une distribution qui est extrêmement large, on a des étudiants turkmènes, turcs, américains, argentins, brésiliens, etc., qui viennent faire leurs études en France.
Alors si on parle un peu de la sélectivité, parce que je crois comprendre que vous avez des taux de sélectivité qui sont assez élevés, comment vous expliquez ces taux de sélectivité, surtout qu'on a parlé de la concurrence accrue auparavant, est-ce qu'il y a un déficit de formation en management sur le territoire ou est-ce que c'est votre pratique extensive de l'apprentissage qui explique cette attractivité ou autre chose ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments qui sont parfaitement exogènes. D'abord, le développement des plateformes comme Mon Master ou même Parcoursup ont contribué à une massification des candidatures de la part des étudiants hein, qui peuvent, par le biais d'un clic, déposer une candidature dans un établissement, ce qui est beaucoup plus simple que ça ne l'était auparavant. Ce qui a été renforcé même presque par le passage par la crise sanitaire liée au Covid, puisque de plus en plus les entretiens de recrutement se font en visioconférence. Et donc là aussi, ça constitue une barrière à l'entrée, entre guillemets, plus faible pour les étudiants. Donc ces éléments nous assurent, à nous comme à beaucoup d'autres, un volume de candidatures très important, mais la question du nombre de candidatures qualifiées parmi ces candidatures est plus difficile à appréhender. Ce qui ensuite fait notre attractivité, je crois que, et c'est là aussi un élément qu'on peut considérer comme exogène, c'est notre situation géographique en Île-de-France, hein, donc proche de beaucoup de centres de décision, de sièges sociaux d'entreprise, et donc effectivement ce qui facilite beaucoup la recherche de contrats d'alternance. Et puis enfin, le dernier point, c'est que je pense que les IAE de manière générale apparaissent un peu comme des organismes rassurants, des sortes de forces tranquilles un peu dans un environnement concurrentiel qui est parfois un peu complexe à lire pour des parents ou même de jeunes étudiants.
Alors, vous avez parlé de 25% d'étudiants étrangers, mais je crois comprendre qu'en termes d'échanges, c'est sur des volumes ou de double diplôme, c'est sur des volumes beaucoup plus faibles. En même temps, vous êtes lancé dans l'accréditation ESCSB. Quel est l'objet de cette accréditation par rapport à ces étudiants étrangers? Parce qu'on sait que les accréditations ont beaucoup de qualité, si j'ose dire, en termes de mesure de la qualité d'un établissement, mais c'est aussi un outil pour attirer des étudiants étrangers. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs?
Alors effectivement, sur les volumes d'étudiants internationaux, on accueille une centaine d'étudiants internationaux par an, essentiellement par le biais d'échanges de type Erasmus, mais aussi quelques étudiants qui viennent par eux-mêmes. Alors étudiants internationaux, entendus au sens des étudiants ayant réalisé leur année précédente dans une université ou un établissement à l'étranger. En revanche, si on regarde les étudiants internationaux, c'est-à-dire qui ont passé leur bac à l'étranger, on est plutôt sur des volumes de 300. Donc à peu près 100 étudiants accueillis chaque année qui étaient l'année précédente en études supérieures à l'étranger et à peu près 300 qui ont passé le baccalauréat ou équivalent à l'étranger. Ça s'inscrit dans une logique qui est plutôt une logique aujourd'hui d'accompagnement de nos étudiants plutôt d'origine française vers un monde internationalisé que dans une stratégie de développement international et à l'international. Nous n'avons pas aujourd'hui de double diplôme à l'international. Ça n'est pas un projet à court terme. Nous utilisons l'internationalisation comme un moyen, un levier pour accompagner nos étudiants vers une meilleure compréhension du monde, une meilleure professionnalisation, une meilleure employabilité. Donc c'est plutôt dans ce sens que nous pensons l'internationalisation, mais c'est un élément qui est extrêmement important pour nos étudiants, ne serait-ce que d'un point de vue culturel. On entend parler beaucoup de langues, évidemment principalement l'anglais, mais pas uniquement dans les couloirs, et ça fait partie des éléments qui constituent une expérience étudiante lorsqu'on fait des études supérieures. Et pour ce qui concerne le cadre de notre accréditation ESCSB, elle a notamment vocation à nous rendre plus visibles dans notre écosystème, mais aussi à constituer un système de pilotage de l'amélioration continue, hein, puisque les accréditations au sens large nous poussent à formaliser un certain nombre de pratiques, à les systématiser, à les homogénéiser. Et puis enfin, c'est un élément très très important par contre dans notre politique internationale pour sécuriser nos partenariats internationaux.
Est-ce que vous savez pourquoi ces étudiants internationaux choisissent l'IAE Paris-Est? Qu'est-ce qui les attire chez vous et pas chez le voisin? Quelle image ont-ils de votre IAE?
Alors je pense qu'il y a deux éléments. Il y a un premier élément qui est la localisation géographique. Le nom Paris est un nom qui est attractif pour des étudiants internationaux et ça c'est un élément extrêmement important. Le deuxième élément, je crois, c'est les efforts qui sont déployés à l'IAE, notamment par les collègues qui sont en charge des relations internationales, pour construire très rapidement des échanges interpersonnels assez soutenus et assez empathiques avec les étudiants internationaux. C'est-à-dire qu'on les accompagne un peu dans leur démarche pour les accueillir à l'IAE. Et je crois que cette proximité attire et rassure les étudiants internationaux.
Donc ils le sentent quand vous allez sur les salons, ils voient que vous êtes accompagnant.
Oui.
C'est ça qui fait votre...
Oui, alors, bien sûr sur les salons, mais aussi ensuite via les échanges de mails, les échanges téléphoniques, etc. On essaie d'avoir un positionnement, accompagnant.
Alors, puisqu'on est sur l'international, la transition avec les enjeux écologiques est toute trouvée. Anne, tu as carte blanche.
Merci Sarah. Alors, la transition écologique, ça commence souvent par la gestion des émissions carbone. Est-ce que vous avez une visibilité là-dessus ? J'imagine qu'il y a peu d'émissions dues aux équipements dans un IAE, mais est-ce que vos personnels prennent l'avion, par exemple ?
Alors, pour tout vous dire, nous sommes très peu équipés pour mesurer notre impact environnemental. Ça fait partie des sujets qui sont sur la table aujourd'hui au sein du conseil de l'IAE et de manière plus générale au sein de nos universités. Nos enseignants-chercheurs prennent l'avion pour aller participer à des conférences, notamment à l'étranger, mais avec une très forte sensibilisation au choix prioritaire du train. Ou d'autres formes de déplacement quand c'est possible. Et dans la plupart des cas, les collègues d'eux-mêmes vont privilégier les solutions qui sont les moins émettrices de CO2.
Mmh. Bon, la transition, ça joue aussi au niveau des formations. Vous avez parlé d'attractivité des formations tout à l'heure, peut-être que c'est un angle pour les repenser. Justement, au plus tard en 2025, tous les étudiants de l'enseignement supérieur vont bénéficier d'un socle de connaissances et de compétences globales, transversales et pluridisciplinaires en matière de transition écologique d'un minimum de 30 heures en L1. Et parmi les 40 formations que vous annoncez sur votre site internet, vous en avez au moins 3 qui sont concernées, c'est-à-dire de niveau licence dès la L1. Donc, est-ce qu'il y a une façon IAE d'enseigner la TEDS, la transition écologique pour un développement soutenable ?
Les enseignements TEDS sont aujourd'hui pilotés au niveau de l'université. Et donc, un certain nombre de collègues de différentes disciplines se sont regroupés pour produire des contenus pédagogiques qui vont être utilisés à la fois à distance via des modules online, mais également ensuite transcrits dans des enseignements en présentiel, avec des échanges directs avec les étudiants. Donc ces modules, ces 30 heures qui sont devenus obligatoires effectivement à partir de la rentrée 2025 vont être déployés à l'IAE, mais je dirais sans spécificité de l'IAE par rapport à d'autres composantes pour l'instant. En revanche, depuis maintenant une quinzaine d'années, nous avons dans le tronc commun de l'IAE, par exemple, un enseignement qui s'intitule « Éthique des affaires et RSE », qui met beaucoup l'accent sur la question des transitions et de l'impact des activités économiques sur à la fois la société, mais également l'environnement. Ce sont des enseignements que nous avons plutôt vocation à renforcer.
D'accord. J'aimerais aussi aborder un petit peu la recherche. Donc, vous avez un laboratoire, Institut de recherche en gestion, qui dispose d'une centaine d'enseignants-chercheurs, vous me dites si je me trompe, de 17 chercheurs invités, 39 doctorants. Est-ce que vous fixez des objectifs en termes de publication ?
Alors, oui, mais c'est là aussi un processus ongoing. Historiquement, en fait, l'Institut de recherche en gestion est un laboratoire qui a toujours été extrêmement actif et qui est probablement un des éléments forts de notre attractivité dans nos recrutements d'enseignants-chercheurs. Il a une identité très forte. C'est un laboratoire qui est installé depuis longtemps en Ile-de-France et même dans le paysage français de la recherche en management. Et donc, c'est un des éléments très importants pour l'IAE. C'est un laboratoire qui, aujourd'hui, a une politique de publication qui doit être réorienté vers les publications de type revue classée, notamment classée par la FNESH, puisque c'est notre métrique. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Nous sommes rendus compte que nous avons un volume de production de connaissances qui est extrêmement important et qui n'est pas toujours traduit par des publications dans les revues classées, et notamment avec des taux de transformation, par exemple, de papiers de conférence en articles relativement faibles, ou une culture assez forte à l'IRG d'écriture de chapitres d'ouvrages ou d'ouvrages collectifs qui sont extrêmement importants pour les collègues et qui aujourd'hui pourraient évoluer vers des formes de production un peu différentes. Donc nous subissons un peu cette évolution que tout notre écosystème connaît, hein, vers le publisher perish, enfin qui ça n'est plus une évolution, c'est une réalité bien sûr. Mais aujourd'hui, nous avons pris conscience de la nécessité effectivement d'aller vers des métriques de mesure beaucoup plus fines sur les publications dans des revues.
Et en matière de financement, est-ce qu'il y a pour la recherche en gestion une place dans les appels à projets, notamment européens ? Est-ce qu'il y a déjà eu des ERC dans cette discipline, dans un IAE par exemple ?
Alors, je ne saurais pas vous répondre précisément sur le fait qu'il y ait pu y avoir des ERC. Je n'en suis pas persuadé, je ne crois pas. En revanche, beaucoup de nos activités de recherche sont financées soit par le biais d'appels à projets qui peuvent être des appels à projets nationaux, du type ANR par exemple, soit par des partenariats avec des industries ou des associations professionnelles. Donc le financement de la recherche est assez mixte, mais là aussi ça fait clairement partie des éléments qui doivent être renforcés. De toute façon, c'est la demande de l'université de manière générale.
Alors, Christophe, en vous écoutant là depuis une vingtaine de minutes, on connaît un peu mieux l'IAE, mais il me manque encore quelque chose de l'ordre de son identité. C'est quoi les points saillants? Qu'est-ce qui différencie cette IAE dans le paysage des autres? Est-ce que vous arrivez à le définir ou est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui vous définit en particulier?
Alors, tout dépend du périmètre qu'on regarde. Si on regarde l'ensemble des organismes de formation management, formation et recherche en management en France, ou si l'on regarde le réseau des IAE, la réponse sera un peu différente. Donc, parce que nous sommes un IAE, nous sommes une école universitaire de management, donc avec l'ensemble des dimensions associées à cette identité universitaire, c'est-à-dire notamment un attachement extrêmement fort au lien entre formation et recherche, une grande ouverture sur le monde et puis une accessibilité forte pour les candidats qui répondent aux critères de sélection que nous pouvons avoir. Pour ce qui concerne l'IAE Paris-Est au sein du réseau, nous avons vocation à être un des IAE de référence au niveau national, éventuellement au niveau international, même si ça n'est pas notre priorité à l'heure actuelle. Alors, un IAE de référence au niveau national, ça signifie être un IAE qui, pour au moins certaines de ses formations, a un rayonnement et un niveau de recrutement qui est plutôt national, ce qui est le cas actuellement.
Alors, dans quelle discipline, par exemple? Dans quelle thématique?
Alors aujourd'hui, c'est le cas sur le master management de la RSE, hein, qui est responsabilité sociale des entreprises, qui est un master historique. C'est le cas dans le champ de la comptabilité, par exemple, avec le master comptabilité contrôle audit. C'est le cas également dans certains masters dans le domaine du marketing, hein, avec des masters qui sont très reconnus, identifiés dans leur domaine. Et nous savons bénéficier, au-delà de la qualité des enseignements et de l'accompagnement que nous proposons aux étudiants, nous savons bénéficier aussi, encore une fois, de cette localisation géographique, un élément fort. Pour ce qui concerne notre identité, elle est très associée en fait à l'histoire de l'IRG et de l'IAE, qui est une histoire parfaitement commune. Et l'IRG s'est beaucoup développée au travers de la thématique management et société. Et c'est un élément très très important qui nous caractérise, qui est souvent une focale lors des recrutements d'enseignants-chercheurs. C'est vraiment ce questionnement de dans quelle mesure les évolutions relatives à la fois sociologiques, mais aussi des pratiques de management, sont-elles interdépendantes, et dans quelle mesure le management d'aujourd'hui doit ou pas s'adapter à ces évolutions sociétales.
Très bien, alors on arrive déjà à la fin de ce temps d'échange, ça va vite hein, avec vous Christophe Torcet. On a quand même une dernière question, c'est ce fameux conseil de lecture qu'on demande généralement à nos invités en fin de podcast. Qu'est-ce que vous avez préparé pour nos auditeurs?
Alors j'ai pensé à un ouvrage qui m'a été offert par ma fille, et donc je pense qu'il y avait un message, ma fille adolescente. C'est une BD, j'aime beaucoup les BD, Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain, qui est paru en 2021 et qui est un ouvrage que j'ai trouvé extrêmement illuminant et qui est par ailleurs parfaitement bien construit, y compris sur des problématiques économiques, sur l'histoire de l'économie, l'histoire de l'industrialisation. Même si on n'adhère pas ou qu'on se questionne sur le parti pris que peuvent avoir les auteurs sur certains thèmes, c'est un ouvrage d'une grande érudition et qui en plus présente une forme parfaitement agréable à lire. Donc c'est un vrai coup de cœur de lecture.
Vous l'avez fait exprès parce qu'Anne est là.
Non, je ne le savais pas.
Merci beaucoup Christophe Torcet d'être passé par le studio Module aujourd'hui pour nous faire découvrir l'IAE de Paris-Est. Merci Anne de ta visite.
Merci.
Et merci à vous Jérôme.
Merci.
Nous nous retrouvons le mois prochain avec un nouvel invité et d'ici là, portez-vous bien.